à partir de 9h10 TU sur RFI.
Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de factures via le mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci de votre fidélité. Bienvenue si vous nous rejoignez. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, comme tous les matins, nous lancerons un débat. Nous parlerons tout à l'heure de la stratégie du boycott des élections. C'est en tout cas la décision prise au Togo par la principale coalition de l'opposition qui a décidé de ne pas présenter de candidat aux législatives du 20 décembre. Elle dénonce notamment des irrégularités dans la préparation des élections. L'opposition réclame donc la recomposition du bureau de la commission électorale ou encore la reprise des opérations d'inscription sur les listes électorales. L'opposition fait-elle finalement le bon choix en boycottant ces législatives, d'autant que ce n'est pas la première fois que l'opposition décide d'appliquer la politique de la chaise vide, rappelez-vous dans les années 90 ou encore en 2002, avec les conséquences que nous connaissons, et on aura certainement l'occasion d'y revenir tout à l'heure avec vos nombreux commentaires au standard. On sent que ce sujet était attendu par nos auditeurs togolais, vu le nombre de réactions que nous recevons. 33 9 693 693 70 et vous continuez évidemment à poster vos commentaires sur la page Facebook de l'émission. Mais d'abord, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Et nous allons d'ailleurs consacrer les 20 prochaines minutes aux tensions entre Moscou et Kiev après l'incident armé de dimanche au large de la Crimée. Je vous rappelle que 3 navires et 24 marins ukrainiens qui voulaient pénétrer en mer d'Azov par le détroit de Kerch ont été arraisonnés par les gardes-côtes russes. Et depuis, la tension ne retombe pas. Vous avez été assez nombreux ce matin pour qu'on consacre ces 20 minutes à nous poser des questions. On a donc contacté pour vous répondre Daniel Vallaud, correspondant permanent de RFI à Moscou. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Et Sébastien Gobert, correspondant à Kiev. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Je vous propose de passer tout de suite au standard avec une première question qui nous vient de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Noah.
Bonjour Juan.
Bienvenue, on vous écoute.
Ma première question est la suivante. Comment la Russie justifie-t-elle cette capture des navires ukrainiens?
Alors, vous avez été plusieurs à nous poser cette question. Daniel Vallaud, c'est vrai que ça fait maintenant 3 jours hein, qu'on répète les arguments avancés par Moscou pour justifier l'arrestation de ces marins et l'arrimage de ces navires. Rappelons justement les raisons invoquées par Moscou.
Eh bien, d'abord, la Russie, c'est l'argument principal hein, de Moscou. Les navires ukrainiens se trouvaient dans les eaux territoriales russes et ensuite ils ont refusé de rebrousser chemin malgré les mises en garde des gardes-côtes russes qui n'ont fait que leur devoir de militaire en arraisonnant les navires. C'est mot pour mot ce qu'a expliqué hier Vladimir Poutine, le président russe qui s'est exprimé sur la question pour la première fois hier hein, à la télévision. Mmh. Autre argument avancé par les Russes, en septembre dernier, plusieurs navires de guerre ukrainien avait pu franchir le détroit de Kerch et cela s'était passé sans anicroche. Moscou explique que ces navires avaient respecté la procédure mise en place depuis la construction du pont qui relie la Crimée à la Russie. Et puis Moscou explique, alors là c'est un argument beaucoup plus politique, hein, que cette affaire, eh bien, elle a été orchestrée, manigancée par l'Ukraine pour provoquer délibérément un incident militaire et diplomatique majeur. Moscou en veut pour preuve la présence à bord des navires ukrainiens d'officiers des services de renseignement ukrainiens, présence qui a d'ailleurs été reconnue par la suite par les autorités ukrainiennes.
En tout cas, l'Ukraine affirme avoir prévenu la Russie de l'itinéraire de ces navires. L'Ukraine dénonce donc une violation du droit maritime. Il faut rappeler tout de même, Daniel Vallaud, que sur le papier, la mer d'Azov est définie comme une mer partagée entre l'Ukraine et la Russie. Les deux pays ont d'ailleurs signé un accord il y a maintenant 15 ans prévoyant la libre circulation sur cette mer. Mais aujourd'hui, nombreux sont les experts à dire que cette mer, elle est tout simplement contrôlée par Moscou. Pourquoi la Russie veut-elle la contrôler?
Alors oui, il faut rappeler que tout a changé en fait en 2014 avec l'annexion de la Crimée et ensuite avec la construction de ce pont, ce fameux pont de 19 kilomètres qui relie la péninsule de Crimée à la Russie et qui d'une certaine manière ferme de facto la mer d'Azov puisque il est très facile pour la Russie de placer un navire sous les arches du pont et donc de bloquer l'accès à cette mer qui ne sorte de mer intérieure en fait. Mmh. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dimanche. Alors pourquoi la Russie veut contrôler cette mer d'Azov? Eh bien il y a une raison d'abord géopolitique parce que en contrôlant cette mer, la Russie peut se projeter très facilement sur la région ukrainienne de Mariupol qui se trouve elle aussi sur la mer d'Azov. Et si elle prenait le contrôle de cette bande de terre, eh bien elle pourrait réaliser le vieux rêve des séparatistes ukrainiens pro-russes, le rêve d'une unité territoriale entre la Crimée et le Donbass. Et puis il y a un élément très important, c'est l'élément économique, parce que cette mer d'Azov permet à l'Ukraine d'exporter une partie de ses céréales et de ses matières premières. C'est en passant par le port de Mariupol qui se trouve sur cette mer d'Azov. Donc vous voyez, c'est vraiment un endroit de tension militaire et économique majeure aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine.
Oui, le port ukrainien de Mariupol qui est un des poumons économiques du sud-est de l'Ukraine, et effectivement en contrôlant cette mer, la Russie peut à tout moment, si elle le veut, instaurer un blocus de ce port qui est indispensable pour l'économie du pays. Noah, vous nous disiez avoir d'autres questions.
Oui, j'ai une deuxième question.
Oui.
Quelles conséquences cela peut avoir si les relations Ukraine-Russie sont déjà tendues?
Ah, elles sont plus que tendues, et c'est vrai que cet incident suscite les craintes d'une escalade militaire entre les deux pays. Sébastien Gobert, à Kiev en Ukraine, on a vu et on a entendu le président ukrainien évoquer la menace d'une guerre totale avec la Russie. Quelles peuvent être les conséquences de cet incident à Kiev? Comment voit-on les choses?
Bon, déjà, pour être honnête, pour commencer, il faut dire qu'en ce qui concerne les relations russo-ukrainiennes, il n'y a plus grand-chose à sauver. Les deux anciens pays frères se déchirent depuis 2014 autour de questions militaires, politiques, économiques, énergétiques, financières, culturelles, linguistiques et religieuses même. Et ça n'allait pas en s'arrangeant, même avant l'incident de Kerch dimanche dernier. Pour autant, côté ukrainien, la capture des navires le 25 novembre est un acte d'agression militaire qui suscite une forte indignation, puisque l'incident a presque été suivi minute par minute ici, et les poursuites, les attaques, les saisies de bateaux sont vécues comme un nouvel épisode de la guerre que la Russie mène contre l'Ukraine depuis 2014. La première fois dans ce conflit que des forces régulières des deux pays s'affrontent publiquement à visage découvert. Il y a eu des tirs sur des bateaux ukrainiens, il y a des prisonniers, des blessés, et c'est présenté comme un acte de guerre dont l'Ukraine est la victime. Et à ce titre, si vous voulez, l'introduction de la loi martiale en Ukraine est d'abord une mesure contre la Fédération de Russie et ses ressortissants. Environ 80 citoyens russes ont été interdits d'entrer sur le territoire depuis déjà le début de la semaine. Cela dit, l'ambiguïté qui dure depuis 2014 demeure, puisque Petro Poroshenko dénonce un acte d'agression, un acte de guerre de la Russie, mais pour autant, il ne lui déclare pas la guerre officiellement.
Oui.
Les deux pays ont encore des relations diplomatiques et les frontières sont toujours ouvertes, au moins formellement. Et c'est toute l'ambiguïté de la position de Kiev depuis 2014 qui s'explique en grande partie parce que l'Ukraine n'a tout simplement pas les moyens de déclarer la guerre à son grand voisin.
Évidemment. Daniel Valo à Moscou, quelle est la perception justement sur les conséquences de cet incident ?
Bien, écoutez, comme l'a dit Sébastien, les relations entre les deux pays sont déjà au plus bas. Cet incident ne peut donc qu'aggraver la situation. Alors, la Russie a-t-elle l'intention, comme le dit Petro Poroshenko, de vouloir s'engager dans une guerre ouverte avec l'Ukraine? C'est très difficile à dire, bien sûr, mais c'est assez peu probable tout de même, dans la mesure où Moscou, aujourd'hui, aimerait plutôt sortir de son isolement international et obtenir, par exemple, un allègement des sanctions. D'ailleurs, Vladimir Poutine aurait aimé en discuter ce week-end avec Donald Trump à l'occasion du G20 qui aura lieu en Argentine. Le président russe aurait bien aimé renouer le dialogue avec le président américain. De ce point de vue, un embrasement militaire en Ukraine et un conflit avec Kiev ne serait pas du tout logique. D'ailleurs, Moscou insiste énormément sur ce point ces derniers jours. Aux yeux de la Russie, c'est l'Ukraine qui a provoqué cet incident, on l'a dit, et si elle l'a fait, c'est afin d'isoler encore davantage la Russie et de provoquer de nouvelles sanctions.
On repasse au standard au 33 9 693 693 70. Bonjour Boubacar.
Bonjour Monsieur Gomez, comment allez-vous?
Bah écoutez, très très bien, vous nous appelez de Bamako, on vous écoute avec Daniel Vallot à Moscou et Sébastien Gobert à Kiev.
Alors ma question est la suivante. Quels moyens dispose l'armée ukrainienne pour récupérer ses navires et ses équipages?
Ah, les moyens militaires peut-être. Sébastien Gobert, vous qui êtes en Ukraine, à Kiev, l'Ukraine peut-elle récupérer ses marins et récupérer ses navires?
Ça va être difficile. Depuis 2014, l'Ukraine a vraiment toutes les peines du monde à faire valoir ses doléances et à obtenir justice. Elle n'a pas pu récupérer la Crimée, elle n'a pas pu en finir avec la guerre dans l'Est, elle n'a pas pu non plus se faire rembourser plusieurs milliards de dollars qu'elle a gagnés dans une dispute gazière internationale contre la Russie. Alors pour récupérer ses bateaux et la vingtaine de marins condamnés à de la prison ferme par des tribunaux russes, eh bien c'est un peu la même problématique. Il faut commencer par dire que Kiev n'a aucun moyen militaire à opposer à l'armada russe en mer Noire. Le haut commandement ukrainien se remet encore de la perte, et avec vraiment beaucoup de difficultés, de la perte de 70% de sa flotte en Crimée en 2014. Mmh. Et donc c'est pour ça que le gouvernement en a appelé à la solidarité internationale pour condamner l'agression de la Russie et imposer de nouvelles sanctions.
Oui, on voit en tout cas que les réactions, aussi bien à Washington, à Bruxelles, à Paris, à Berlin, ces réactions, elles sont timides.
Oui, tout à fait. Et puis, il y a aussi une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU à New York, lundi, qui n'a rien donné de concret. Moscou reste assez hermétique aux appels internationaux, et pour l'instant, la perspective de nouvelles sanctions reste assez timorée. Assez probablement, l'Ukraine ne pourra pas récupérer ses bateaux ou ses marins si tôt, à moins qu'ils ne deviennent monnaie d'échange dans un prochain transfert de prisonniers politiques. Mais ça, c'est un processus aussi qui peut s'étaler sur le long terme. Dans ce contexte, la justification de la loi martiale qui est entrée en vigueur hier matin fait débat, puisqu'elle n'offre pas d'instruments pour récupérer ses navires ou même pour empêcher une escalade militaire. Et on a l'impression que Petro Poroshenko a en fait joué une carte symbolique dans un espèce de coup politique spectaculaire, mais que ça ne va pas changer grand-chose.
Oui, de la symbolique avant tout, disiez-vous. On reviendra dans un instant sur l'instauration de la loi martiale en Ukraine. Là aussi, plusieurs auditeurs veulent comprendre concrètement de quoi il s'agit. On repasse au standard avec Souleyman. Bonjour.
Bonjour, Boumed.
Bienvenue à Paris, sur l'antenne de RFI. Vous nous appelez de Koudougou au Burkina Faso. Nous vous écoutons.
Et bon, après l'instauration du loi martiale par Petro Poroshenko dans plusieurs régions frontalières de l'Ukraine, bon, le président Vladimir Poutine a fait part de son inquiétude à la chancelière Angela Merkel de l'Allemagne. Bon, ma question était de savoir dans quelle mesure vraiment l'Allemagne pourra-t-elle apaiser les tensions entre les deux nations, l'Ukraine et la Russie?
Oui, c'est une belle question. C'est vrai que Vladimir Poutine et Angela Merkel se sont entretenus au téléphone. C'était dans la nuit de lundi à mardi. Pour vous répondre, eh bien, nous avons contacté notre correspondant à Berlin. Bonjour Pascal Thibault.
Bonjour.
Alors, il faut d'abord préciser, Pascal, que ce coup de fil entre le président russe et la chancelière est une initiative allemande. C'est Angela Merkel qui a pris son téléphone pour parler à Vladimir Poutine.
Oui, tout à fait. Angela Merkel a appelé Vladimir Poutine dans la nuit de lundi à mardi, ou lundi soir en tout cas. Elle a aussi appelé ce même jour le président ukrainien Poroshenko. Elle va rencontrer d'ailleurs dans quelques minutes le premier ministre ukrainien qui est à Berlin pour un forum économique germano-ukrainien prévu de longue date. On va évidemment parler de cette crise actuelle. Donc de nouveau, Berlin est en première ligne et Berlin est très sollicité. On l'a vu ce matin dans une interview donnée par le président ukrainien Poroshenko à la presse allemande, où il rappelle que Merkel est une grande amie de l'Union de l'Ukraine, qu'elle avait sauvé son pays une première fois en 2015 avec les accords de Minsk, et donc il demande à Merkel de s'engager. On l'a aussi entendu d'après le quotidien américain New York Post, dans la voix de Donald Trump, qui aurait dit il faut impliquer Angela. Donc une fois de plus, on attend beaucoup d'une implication de l'Allemagne dans cette crise.
Oui, avec la France, puisque visiblement les deux pays proposent de jouer les médiateurs.
Oui, tout à fait. J'évoquais les accords de Minsk. Il faut se rappeler qu'ils ont été conclus non seulement entre la Russie et l'Ukraine avec une médiation allemande, mais aussi avec une médiation française. Depuis, il y a eu d'autres réunions dans ce qu'on appelle le format de Minsk. Lundi dernier, à Berlin d'ailleurs, c'était prévu de longue date avec des responsables des différents ministères des Affaires étrangères concernés. Mais on a aussi vu que les propositions de médiation dans le nouvel incident proposé par la France et l'Allemagne n'ont pas suscité un grand enthousiasme de Moscou, pour dire ça de façon assez prudente.
Bien, merci beaucoup Pascal Thibault d'avoir répondu à Souleymane qui nous appelait de Koudougou. Allez, on repasse très vite au standard 33 9 693 693 70. Bonjour James.
Bonjour Juan.
Vous avez également des questions sur ces tensions entre l'Ukraine et la Russie.
Oui, monsieur Juan. Bon, je voudrais savoir concernant la loi martiale décrétée par le président Petro Poroshenko. Je voudrais savoir dans quelle mesure la loi martiale peut-elle affaiblir militairement l'influence russe dans la région.
Oui, loi martiale qui est entrée en vigueur, Sébastien Gobert le disait tout à l'heure, hier, pour une durée de 30 jours renouvelable. Sébastien Gobert à Kiev, concrètement, cette loi martiale, à quoi va-t-elle servir ?
Mais c'est vraiment une grande question ici en Ukraine, puisque il y a eu des moments très critiques en 2014-2015 dans le cadre de la guerre à l'Est avec des milliers de morts, mais la loi martiale n'avait pas été appliquée à ces moments-là. Alors pourquoi maintenant, à 4 mois de l'élection présidentielle, la controverse fait vraiment rage. D'autant que dans le contexte actuel, eh bien, la perspective d'une escalade militaire reste quand même très hypothétique, comme le rappelait Daniel. On ne voit pas de mouvement de troupes majeures aux frontières russes. Et quand bien même, eh bien, il faut dire, la loi martiale en Ukraine ne pourrait vraiment rien y changer. Alors, Petro Poroshenko, lui, il affirme que ce régime d'exception lui donne des moyens d'action qui lui permettront de réagir vite en cas d'intervention russe et d'envoyer des messages clairs à Moscou sur sa détermination politique.
On voit pas comment la loi martiale va renforcer les capacités militaires techniques de l'Ukraine et, pour dire clairement les choses, changer le rapport de force sur le terrain.
Exactement. Moi, je l'ai vu hier parce que j'ai passé toute la journée dans le nord-est du pays, dans la région de Kharkiv, et j'ai pu constater que non seulement la loi martiale ne change pas la vie quotidienne des habitants, ça veut dire qu'il n'y a pas de couvre-feu, il n'y a pas de blindés dans les rues, il n'y a pas de restrictions de liberté civique ou médiatique, mais en plus, les gardes frontières, la police, les militaires auxquels j'ai pu parler hier, ne savent pas trop ce que veut dire la loi martiale pour eux.
Normalement, attendez, donc, Sébastien Gobert, pour que les auditeurs comprennent bien, parce qu'on parle de loi martiale depuis 48 heures, la loi martiale est censée permettre, si j'ai bien compris, aux autorités ukrainiennes de mobiliser les citoyens, de censurer les médias, de limiter les rassemblements publics et visiblement elle autorise le gouvernement à mettre en place, à faire en sorte que les forces armées soient placées en alerte maximale. Tout ça c'est sur le papier, vous n'avez encore rien constaté de tout cela sur le terrain?
Non, j'ai absolument rien constaté de tout ça sur le terrain. Tout ça dépend évidemment de l'évolution de la situation militaire, de l'évolution de la situation politique, à savoir si jamais la Russie va... si jamais les Ukrainiens vont considérer que la Russie mène une politique d'escalade, il faut voir que la loi martiale, en fait, c'est une espèce de boîte de Pandore. Une fois qu'elle a été adoptée, une fois qu'elle est ouverte, il peut en sortir tout et n'importe quoi en fonction de ce que les autorités veulent en faire. Vous mentionnez restreindre les libertés civiles, donner plus de pouvoir aux militaires, mais aussi, dans le cadre de l'élection présidentielle que j'ai déjà mentionnée, eh bien, le président Petro Poroshenko, chef des armées, qui est en ce moment en train de se battre un peu pour être réélu, puisqu'il n'est pas favori dans les sondages, oui. Eh bien, il peut s'en servir pour instrumentaliser la situation à son profit. Oui, et donc, c'est pour ça que la loi martiale fait vraiment débat ici en Ukraine.
Elle fait débat, effectivement, puisque certains y voient une façon de manœuvrer politiquement pour le président sortant Poroshenko, qui est candidat à sa propre succession en mars prochain. Et vous le disiez, Sébastien Gobert, pour l'instant, il n'est pas favori dans les sondages. Donc c'est un moyen pour lui de se positionner, finalement, comme le chef de la nation, en décrétant la loi martiale et en essayant peut-être verbalement encore de provoquer les Russes. Affaire à suivre, évidemment. Merci
à vous Sébastien Gobert, correspondant de RFI à Kiev. Merci également à Daniel Vallot, notre correspondant permanent à Moscou, et à Pascal Thibault qui lui est notre correspondant à Berlin. D'autres questions à la rédaction évidemment demain matin. D'ici là, vous nous appelez car nous vous donnerons la parole dans 10 minutes pour parler du boycott de l'opposition togolaise aux élections législatives du mois prochain.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.